Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Léa Sabourin, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Guillaume Ménard. À la réalisation, Anna Olvec, prise de son, Emmanuel Morzincan.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comme tous les vendredis, notre semaine s'achève par un débat autour d'une actualité économique. Aujourd'hui, l'Allemagne est-elle arrivée au bout de son modèle ? Les signes avant-coureurs d'un ralentissement sérieux de l'économie allemande sont apparus dès l'automne, mais c'est l'annonce d'une croissance de 0,5% pour l'année 2019 contre 1,4% en France qui a relancé les interrogations sur la pérennité du modèle allemand. Cette mauvaise passe a fait ressurgir des débats dans un pays acquis à l'ordolibéralisme. Faut-il creuser le déficit pour relancer la croissance ? Et l'État devrait-il intervenir davantage dans l'économie ? Des propositions soutenues par le ministre de l'économie allemand, Peter Altmaier, mais catégoriquement rejetées par son homologue des finances, le social-démocrate Olaf Scholz. Alors l'Allemagne doit-elle réinventer un modèle qui lui a assuré la prospérité pendant deux décennies ? Comment expliquer les difficultés que traverse aujourd'hui son économie ? Et peut-il y avoir un consensus politique pour en finir avec l'austérité budgétaire ? Autant de questions que nous allons poser à nos trois invités. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Michael Lowy nous fera découvrir l'œuvre d'une icône révolutionnaire assassinée il y a 100 ans, j'ai nommé Rosa Luxembourg. Et pour parler de l'essoufflement du modèle économique allemand, trois invités autour de la table donc. Bonjour Arnaud Le Chevalier.
Bonjour, guten Tag.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur associé au laboratoire LISE ainsi qu'au centre Marc Bloch de l'Université Humboldt à Berlin. À vos côtés, Guillaume Duval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef à Alternatives économiques, auteur de Made in Germany, le modèle allemand au-delà des mythes paru au Seuil, et vous intervenez un jeudi sur deux à ce micro en tant que chroniqueur et partenaire. Et enfin, Charles-Henri Colombier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des conjonctures chez Rexecode, un institut privé d'études économiques. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Nous prévoyons un développement économique lent mais solide, a-t-il expliqué. Nous sommes convaincus que la croissance se poursuivra cette année, mais cette croissance n'est pas assez soutenue pour refléter ce que doit être une économie moderne. Il va donc nous falloir étudier comment stimuler et renforcer cette croissance.
Voilà, on entendait Peter Altmaier, le ministre de l'économie allemand, lors d'une conférence de presse il y a une dizaine de jours. Alors les prévisions de croissance ont été revues à la baisse, après 1,8% annoncé en octobre, puis 1% en janvier. C'est finalement une croissance de 0,5% que l'Allemagne prévoit pour l'année 2019. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel ralentissement, Arnaud Le Chevalier ?
La première raison essentielle, c'est le fait que l'Allemagne a connu une ouverture très importante au cours de la dernière décennie, c'est-à-dire que la part des exportations, qui était un peu dans la moyenne européenne jusqu'en tournant du millénaire, a beaucoup augmenté et que maintenant, par exemple, les exportations pèsent à peu près 47% du PIB allemand, de sorte que ça rend l'Allemagne extrêmement sensible à la conjoncture internationale. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, dans la deuxième moitié de l'année 2018, un certain nombre d'incidents propres à l'industrie automobile allemande sur lesquels je ne m'étends pas. Il y a donc eu un premier ralentissement de la croissance assez fort.
Pour les auditeurs, peut-être, on peut expliquer que c'est lié aux nouvelles mesures anti-pollution imposées aux voitures neuves qui a fait prendre beaucoup de retard à l'industrie automobile allemande.
Pour mettre en place cette nouvelle procédure et accessoirement un problème de hauteur d'eau dans le cours du Rhin et plusieurs rivières allemandes où, par où passent les pièces détachées et voilà. Sinon donc dans les ce qui est nouveau c'est le ralentissement de la croissance en 2019 qui est plus fort qu'attendu, même si j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il y a d'autres moteurs de la croissance allemande car l'Allemagne a rééquilibré sa croissance ces dernières années. Il y a d'autres moteurs de la croissance allemande, tout particulièrement la consommation interne et la politique budgétaire qui aura un impact cette année comme au cours des années passées ce qu'on appelle l'impulsion budgétaire, un impact favorable sur la croissance.
On va bien sûr y revenir, mais un premier mot peut-être d'abord, Charles-Henri Colombier, sur ce ralentissement, qui est lié donc au ralentissement du commerce mondial, essentiellement aussi selon vous.
Oui, je partage ce qui a été dit, c'est effectivement le facteur d'ordre 1. Même s'il y a eu des éléments plus conjoncturels à l'automne dernier, niveau du Rhin et effectivement choc du passage aux nouvelles normes automobiles. Mais ça a des incidences parce qu'il faut poser le bon diagnostic sur le problème de l'économie allemande. C'est un choc de demande industrielle mondiale. C'est aujourd'hui pas un choc de demande domestique. Ça, je pense qu'il faut bien le préciser. Et d'où vient ce choc de demande industrielle mondiale? C'est le ralentissement du commerce mondial, avec évidemment un contexte de tension largement alimenté par les États-Unis. Mais c'est également lié à ce qu'on pourrait appeler le cycle de l'automobile mondiale. Aujourd'hui, si on regarde les ventes de véhicules particuliers sur les principaux marchés mondiaux, États-Unis, Europe, Chine, on a aujourd'hui un marché mondial dont les ventes sont en baisse de 15% par rapport à l'automne dernier. Et donc évidemment, l'Allemagne, qui est une superpuissance industrielle dont à peu près 70-80% de la production automobile domestique est exportée, évidemment est impactée directement, très directement par ce choc.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que déjà en 2018, la croissance allemande avait baissé, elle était à 1,5% contre 2,2% les deux années précédentes. Et ce qui est intéressant, Guillaume Duval, je me tourne vers vous, c'est que au troisième trimestre 2018, l'Allemagne a connu une petite récession. Et quel lien est-ce qu'on peut faire avec, en l'occurrence, l'annonce d'Angela Merkel de se retirer, annonce qui a été faite fin octobre?
Je ne suis pas sûr que le lien soit très direct, mais en tout cas, ce que je voulais dire sur la situation conjoncturelle, c'est qu'elle n'est pas conjoncturelle. Elle est probablement structurelle. Bon, c'est peut-être un sujet sur lequel on aura des désaccords, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les raisons qui ont fait la force de l'économie allemande sont en train de disparaître, mais sans doute structurellement, à savoir, d'une part, l'apparition d'autres acteurs sur le terrain de l'industrie automobile, sur les mêmes créneaux que les Allemands, un retard structurel très important de l'industrie allemande sur la question des voitures électriques, des voitures autonomes, etc., par rapport à des nouveaux acteurs sur un terrain qui semble être du futur. Et enfin, c'est la même situation sur le terrain des biens d'équipement. Donc, ce qui fait la force de l'industrie allemande jusque-là, c'est non seulement de vendre des voitures, mais aussi de vendre les machines pour faire les voitures. Sur ce terrain des biens d'équipement, là aussi, les acteurs chinois, les acteurs asiatiques viennent concurrencer très fortement l'Allemagne. Donc, la question qui se pose, c'est non seulement de savoir quelle sera la croissance cette année en Allemagne, mais quelle sera la croissance dans les prochaines années, et en particulier sur le terrain industriel, comment est-ce qu'ils peuvent rétablir les choses.
Et ce qu'on voit en tout cas, c'est que cela ouvre un certain nombre de débats sur la politique budgétaire. En l'occurrence, la question qu'on peut poser, Arnaud Le Chevalier, c'est est-ce que la politique d'austérité du gouvernement allemand a été défavorable à l'économie allemande? Et d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi elle consiste, cette politique?
Une politique d'austérité, c'est de manière générale une politique qui consiste à réduire le déficit budgétaire qu'on appelle structurel, c'est-à-dire indépendamment des variations de la conjoncture, rapporté au PIB potentiel.
En l'occurrence, ça a été inscrit dans la Constitution en 2009, cette mesure d'équilibre budgétaire.
Alors, ce qui s'est passé, c'est l'onde du choc de la réunification, qui a impliqué des tensions sur le système redistributif fédéral, et en fait les Länder et le Bund n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une réforme du financement du fédéralisme allemand, de sorte que la seule solution qu'ils aient trouvée, c'est d'introduire en 2009 ce qui s'appelle en allemand le Schuldenbremsen, c'est-à-dire le frein à la dette, à savoir un déficit structurel maximal pour le Bund, donc l'échelon fédéral, de 0,35% du PIB, et à partir de 2020, aucun déficit pour les lenders. Alors, ça, c'est le cadre général. Néanmoins, en raison d'une forte croissance ces dernières années, l'Allemagne a réussi à la fois à avoir le fameux Schwarz-Null, c'est-à-dire un déficit budgétaire de zéro. Les administrations publiques sont même légèrement excédentaires dans l'ensemble. Mais grâce à des recettes fiscales extrêmement abondantes apportées par la croissance.
Aujourd'hui, cette question de la politique de relance se repose.
Alors, absolument, mais elle est en cours déjà. Il va y avoir... d'abord, l'impulsion budgétaire a été dans l'ensemble beaucoup plus positive que dans les autres pays de la zone euro depuis plusieurs années. Et ça va s'accentuer encore cette année parce que l'Allemagne, c'est un pays où les... Par exemple, on a un exemple qui parle aux Français. L'Allemagne, c'est un pays où les retraites ont été réévaluées de 4%, par exemple, l'année dernière. C'est un pays où on augmente les allocations familiales. C'est un pays où on a redessiné le barème de l'impôt sur le revenu pour produire du pouvoir d'achat pour les ménages concernés. Bref, c'est un pays qui n'est pas, paradoxalement, malgré un équilibre budgétaire, a eu une politique budgétaire qui aurait naturellement dû être beaucoup plus expansive, mais qui n'a pas été restrictive.
Ce que vous dites, c'est que la consommation des ménages pourrait permettre de relancer la croissance. Guillaume Duval, selon vous, on ne pourra pas faire l'économie d'un plan de relance. En tout cas, le débat est lancé en Allemagne.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la politique budgétaire allemande depuis le début des années 2000 a été structurellement restrictive. Et je crois qu'elle a été très négative pour ce qu'on appelle la croissance potentielle allemande, donc pour le futur de l'économie allemande. Dans son ensemble, elle a consisté à réduire très fortement les investissements publics. Donc l'Allemagne, c'est le seul pays de l'OCDE, je crois, où l'investissement public net, si on tient compte de l'usure des infrastructures existantes, est négatif. Donc ça s'est traduit par une dégradation des routes, des ponts, etc. etc.
Près de la moitié des routes et des ponts seraient à moderniser.
C'est la même chose sur le plan des infrastructures immatérielles, je dirais. Donc ils ont fait quelques efforts du côté de l'éducation suite notamment à un mauvais classement PISA en 2000. Mais globalement, ils ont négligé les infrastructures matérielles et immatérielles du pays. Malgré ça... Et pas grâce à ça, l'économie allemande s'est bien portée depuis une quinzaine d'années maintenant. Elle s'est redressée du fait de la demande très importante de la Chine, en particulier pour les grosses voitures. Les dignitaires chinois ont acheté des Mercedes, des BMW, des Porsche, etc. Et les dignitaires américains aussi. Une demande importante de la Chine aussi et des autres pays pour les machines. Que produisent les Allemands, mais justement, quand ça s'arrête, il reste plus grand-chose et le potentiel du pays est affaibli par ces politiques, d'autant qu'elles ont beaucoup aggravé aussi les inégalités, la pauvreté, etc. etc. Alors ça fait un certain nombre d'années, Arnaud vient de le souligner, pour compenser les effets très négatifs sociaux de ces politiques d'austérité de Gerhard Schröder en particulier, les Allemands sont en train d'adopter des éléments centraux du modèle social français.
Le salaire minimum en 2015.
Ils sont en train de se doter maintenant d'un minimum vieillesse ou d'un équivalent. Ils ont adopté aussi l'extension des conventions collectives telles qu'on le fait en France. Donc ils ont commencé à corriger le tir et c'est grâce à ça que la demande intérieure tient.
Donc l'Allemagne a déjà commencé à remettre en cause son austérité budgétaire, mais elle pourrait aller encore plus loin, Charles-Henri Colombier.
Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, la situation des finances publiques est tellement favorable à l'heure d'aujourd'hui, puisque je rappelle qu'un excédent budgétaire d'1,7% du PIB a été enregistré en 2018. La situation est tellement favorable qu'on en vient à oublier effectivement des mesures d'expansion budgétaire qui peuvent être prises. Et on estime aujourd'hui que les finances publiques contribueraient à une impulsion budgétaire en 2019 assez significative, au moins aussi importante que celle qu'on observerait en France.
Mais si l'on parle en termes de force politique, pour l'instant, justement, je parlais de Peter Altmaier, le ministre de l'économie, il est assez isolé sur cette question, sur cette volonté de mettre en place cette politique de relance.
Oui, disons qu'il a surtout été très isolé sur la volonté de, et on y reviendra peut-être, de rétablir une stratégie industrielle nationale.
On va en parler.
Effectivement, qui est quelque chose qui vient en contradiction avec le modèle ordolibéraliste historique allemand. Un élément d'explication qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les obligations, les titres d'État allemands, c'est aujourd'hui le safe asset, l'actif sans risque de la zone euro, ce qui vaut aujourd'hui au taux à 10 ans allemand d'être à un taux de 0,0%. Et en réalité, les excédents budgétaires accumulés par l'Allemagne sont en partie liés à cet état de fait.
Arnaud Le Chevalier.
Oui, alors il faut dire deux mots à ce sujet de la tradition ordolibérale en soi et des usages politiques dont elle peut faire l'objet à la fois en Allemagne et depuis l'Allemagne vers la zone euro en particulier. Donc c'est cette philosophie néolibéral né dans les années 30, fin des années 20 en Allemagne, qui est assez originale du point de vue du néolibéralisme, puisqu'elle considère que les marchés ne sont pas autorégulateurs. Donc il faut que l'État définisse un cadre pour le développement de l'économie, en même temps que des règles, des mesures régulatrices, par exemple une politique de la concurrence. Et ce courant ordolibéral plaide pour des politiques dites de stabilité, c'est-à-dire d'abord une politique monétaire qui vise à la stabilité des prix. On sait par quel détour maintenant c'est devenu la politique de la Banque Centrale Européenne, mais aussi une politique budgétaire peu expansive. Et c'est ça qui aujourd'hui a été instrumentalisé politiquement, et c'est-à-dire que le nouveau ministre social-démocrate des Finances mène exactement la même politique que le ministre chrétien-démocrate précédent, qui s'appelait Schäuble, en pensant que c'est en respectant ce sacro-saint équilibre budgétaire, qui est à peu près stupide à l'heure actuelle, puisque l'Allemagne peut s'endetter à des taux d'intérêt nuls. Donc dès lors que l'investissement a un rendement, ne serait-ce que légèrement positif, ils auraient intérêt, comme l'a souligné d'ailleurs Olivier Blanchard, à s'endetter.
Donc, Olaf Scholz qui le fait parce qu'il espère devenir chancelier, faut le préciser.
Il le sera sans doute pas, mais c'est une manière pour lui en tout cas de se crédibiliser, et c'est devenu une sorte de dogme instrumentalisé en Allemagne.
Guillaume Duval.
Oui, sur l'histoire et les raisons pour lesquelles les Allemands ont un type de politique économique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est une chose, c'est que ils ont reconstruit l'Allemagne après-guerre, qui était dans un état déplorable, comme chacun sait, et la puissance de l'industrie allemande sur une chose, c'est avoir une inflation plus faible que leurs voisins européens, avoir moins de hausse des prix que les Français, que les Italiens, que les Anglais, etc. Ce qui permettait aux produits allemands d'être toujours moins chers que les autres, de moins augmenter que les autres, et c'est comme ça qu'ils ont gagné des parts de marché industrielles. Alors il y avait tout le temps des dévaluations qui faisaient que les autres s'alignaient de nouveau, mais entre deux dévaluations, ils perdaient à nouveau de la compétitivité prix du fait de cette inflation très faible. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Allemagne continue à vouloir avoir cette politique, a continué jusqu'ici à vouloir avoir cette politique. C'est ça qui a causé la crise de la zone euro, parce que le fait que l'Allemagne veuille continuer à avoir moins d'inflation que les Italiens, etc., les Français, c'est ça qui a empêché en particulier la BCE d'augmenter ses taux quand il y a eu des endettements excessifs en Grèce, en Espagne, etc., etc. C'est ça qui a causé la crise de la zone euro, mais s'ils continuent à vouloir avoir moins d'inflation que les autres, on est mort. C'est-à-dire que justement, un des changements de fond qu'il faut réussir à obtenir de l'Allemagne dans le contexte d'aujourd'hui, c'est qu'elle accepte d'avoir un peu plus d'inflation que les autres. Si on veut avoir 2% d'inflation dans la zone euro, comme la BCE le veut, et rétablir un peu les déséquilibres qui se sont construits au sein de la zone euro, il faut que les Allemands, ils en aient 3 pendant un certain temps, pour que les Italiens puissent en avoir 1, et les Français 1, etc., etc. Sinon, les autres sont obligés de se maintenir dans la déflation, et c'est pour ça que tout va mal dans la zone euro. Donc ça, c'est la question fondamentale. Est-ce que les Allemands sont capables d'accepter d'avoir un peu plus d'inflation que les Italiens et que les Français?
Alors il y a la question budgétaire, mais il y a aussi la question industrielle que vous citiez, Charles-Henri Colombier. Effectivement, le ministre de l'économie a remis en cause ce dogme qui est le fait de ne pas intervenir en matière économique. Il a présenté début février un plan pour une stratégie industrielle nationale à l'horizon 2030, mais un plan qui est loin de faire consensus auprès des entreprises, Charles-Henri Colombier.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une forme de paradoxe de voir les économistes français regarder avec des yeux de chimène ce qui était proposé en Allemagne, puisqu'on a largement abandonné cette idée de stratégie industrielle en France même, alors que c'est davantage dans notre tradition. Qu'est-ce qui a provoqué d'abord, pour bien situer, cette annonce, cette décision du ministre de l'économie allemande? Je pense qu'il y a la conscience que le secteur automobile en particulier, qui est tout à fait fondamental, on l'évoquait dans l'économie allemande, est face à un mur. Il est même coincé entre deux murs en réalité, avec d'une part un changement de modèle sur la motorisation des véhicules. Je crois que l'Institut Munichois IFO estimait que si le moteur à combustion vient à disparaître d'ici 2030, c'est potentiellement 600 000 emplois qui pourraient disparaître en Allemagne. Donc c'est ça a une menace plutôt chinoise, puisque la Chine a pris de l'avance sur les batteries, sur l'électrique. Et d'un autre côté, une menace qui est davantage une menace américaine, qui est la montée en puissance de la digitalisation du véhicule autonome, où l'Allemagne, mais l'Europe dans son ensemble, a pris du retard.
Donc cette stratégie industrielle, c'est pour investir davantage et aussi pour créer des géants au niveau européen ?
Cette stratégie industrielle, elle vise effectivement à apporter davantage de protection, accompagner davantage les grands groupes qui sont exposés à cette menace qui est tout à fait fondamentale. Mais par contre, elle est sans doute beaucoup moins partagée par l'ensemble du Mittelstand allemand, donc l'ensemble de ces entreprises intermédiaires, moyennes, qui finalement trouvent leur place dans la mondialisation, ont des marchés, et pour lesquels finalement le fait que l'Allemagne perde une partie de sa spécialisation est moins un problème. Voilà, Je pense que cette dichotomie existe dans les réactions allemandes et explique pourquoi il y a eu effectivement une levée de bouclier.
C'est une bataille entre grands groupes et moyennes entreprises, Guillaume Duval, vous êtes d'accord avec cette vision ?
Non, je ne crois pas, non, parce que les entreprises moyennes sont quand même très dépendantes des grands groupes, elles sont en général dans les secteurs des biens d'équipement et elles travaillent dans la roue des grands groupes pour les équiper leurs usines en particulier. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est très important ce changement de philosophie des Allemands. Il faut bien comprendre à quel point c'est une opportunité pour l'Europe. Hein. Parce que jusque-là, c'est eux qui bloquaient beaucoup sur cette histoire de politique industrielle. Ce qu'il faut bien comprendre en particulier, c'est l'impact de l'affaire NSA Snowden. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit en France, donc l'espionnage à grande échelle à travers les GAFA en particulier des Américains sur tout ce qui se passe en Europe et dans le monde. C'est une affaire qui n'a pas fait trop de bruit en France parce que nous on a l'habitude d'être espionné par un État qui rend pas vraiment des comptes sur ce qu'il fait et on a l'habitude de considérer que les Américains c'est forcément des méchants. Mais en Allemagne ça a fait vraiment un choc terrible parce qu'ils avaient l'habitude, ils sont très sensibles aux questions de liberté, de droit individuel, parce qu'ils ont eu quelques ennuis dans le passé avec ces choses-là. Et d'autre part, ils avaient l'habitude de considérer que les Américains, c'était juste des gentils qui étaient là pour les protéger des Russes. Et là, ils ont découvert brutalement l'énorme dépendance de l'Europe sur tous ces terrains-là, et son énorme faiblesse, non seulement sur le plan industriel, mais qui posait des problèmes de liberté, de démocratie très importants.
Donc il est apparu cette nécessité de se protéger vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis des États-Unis.
Oui, ils sont disponibles, je crois, aujourd'hui pour mettre en place une politique industrielle européenne, et c'est vrai que moi je suis surpris du faible écho que ça rencontre en France, que personne leur propose vraiment d'y aller, sinon quelques phrases dans des sommets, dans des choses comme ça, mais aucune action concrète, alors que c'est une rupture majeure par rapport à toute l'histoire de l'Europe jusqu'ici.
Arnaud Le Chevalier.
Oui, à ce sujet, il y a en effet un changement de contexte qui est lié, on l'a dit, aux émergents, particulièrement à la Chine, qui est lié aussi aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ou encore aux exigences de la politique énergétique. Donc ça oblige l'Allemagne à adapter son modèle industriel. Alors, on distingue traditionnellement la politique industrielle horizontale et une politique industrielle verticale. Horizontale, disons que c'est une politique qui consiste justement un peu dans la tradition ordolibérale à dessiner un cadre favorable, en particulier à l'innovation, alors que la politique industrielle verticale est plutôt une politique où on essaie de créer des filières de production. Et alors, à la fois, les propositions d'Altmaier sont effectivement nouvelles, il n'y a pas du tout consensus en Allemagne sur ces sujets, notamment parmi les économistes, mais il faudrait être naïf pour ne pas voir que l'Allemagne a fait de la politique industrielle depuis très longtemps. Hein. Elle le fait avec différents leviers. Il y a d'une part le levier du financement des entreprises, puisque le Mittelstand est essentiellement, disons que l'économie allemande est moins financiarisée, moins dépendante des marchés financiers, notamment parce que le Mittelstand est financé.
Donc, qui est cette nébuleuse de PME allemande.
Voilà, de grosses PME en particulier, est financée par des banques régionales qui sont elles-mêmes, dans lesquelles les lenders sont eux-mêmes représentés, donc bon, sans parler de l'actionnariat direct qui peut encore exister. Bon, et puis toutes les positions internationales de l'Allemagne là récemment. Par exemple, on n'a pas de taxation commune des GAFA en Europe parce que l'Allemagne, pour défendre son industrie automobile, a pas voulu la mettre en place par crainte de représailles des États-Unis. Et ça, c'est alors même que ils ont redéployé leur appareil de production automobile aux États-Unis de manière substantielle ces dernières années.
Mais on voit en tout cas.
Mais il y a en même temps une volonté de, par exemple, de définir une nouvelle filière de batteries électriques avec un accord de fin 2017 à l'échelle européenne. Il y a, au cours de cette législature, devrait être mise en place une agence pour l'innovation de rupture. Il y a donc une série de mesures relevant à la fois une politique industrielle horizontale et verticale qui sont en cours en Allemagne.
Charles-Henri Colombier.
Je pense qu'il y a, une question qui divise les économistes et les policy makers en Allemagne et qui détermine la réponse qu'on apporte à cette stratégie industrielle. C'est est-ce que le changement technologique qui apparaît est un changement comme d'autres, auquel cas finalement ceux qui répondent non à cette question aboutissent à la conclusion qu'il n'y a pas besoin d'une stratégie industrielle, ou bien est-ce qu'on est vraiment sur une révolution technologique digitale qui va avoir des implications dans l'ensemble de l'économie et qui est comparable par exemple à l'avènement du moteur à combustion ou à l'avènement du rail, et ceux qui aboutissent plutôt à cette conclusion effectivement promeuvent activement une stratégie industrielle nationale. Et je pense que le constat n'est pas tout à fait unanime en Allemagne sur cette question.
Il y a cette idée que l'industrie automobile allemande effectivement a pris du retard en matière de nouvelles technologies. Guillaume Duval, vous voulez réagir?
Oui, je voulais réagir sur un point, c'est aussi sur la question de la protection. Enfin, ce tournant allemand se traduit aussi sur la question de la protection des investissements et de la surveillance des investissements étrangers en Europe. Donc la politique allemande a eu une responsabilité très lourde dans le fait que les Chinois, en particulier les multinationales chinoises, ont pu racheter des actifs en Europe. C'est à cause de la politique d'austérité appliquée bêtement en Grèce, au Portugal, à la demande du gouvernement allemand, que par exemple l'EDF portugais est devenu chinois, que le port du Pirée est devenu chinois, etc. etc.
Mais aujourd'hui, il y a un rétropédalage.
Ils ont ouvert la porte aux Chinois en Europe et ils se sont battus très longtemps contre toute forme de protection des investissements en Europe pour que justement les multinationales allemandes ne soient pas embêtées à l'étranger, etc. etc. Mais là, quand les entreprises chinoises ont commencé à racheter des biens d'équipement, des entreprises de biens d'équipement allemandes, et notamment la société KUKA en 2017, si je ne me trompe pas, là, ils ont commencé à prendre peur et à comprendre que le problème, c'était pas simplement de racheter des boîtes grecques ou portugaises, c'était aussi de s'attaquer directement au cœur de l'industrie allemande. Donc, ils sont prêts aujourd'hui, là aussi, à ce qu'on protège les investissements européens davantage.
You're losing your vitamin C, chante le groupe allemand Cannes sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Et nous poursuivons notre discussion sur le ralentissement économique allemand en compagnie d'Arnaud Le Chevalier, Guillaume Duval et Charles-Henri Colombier. Alors le modèle économique allemand, on l'a dit, ne repose pas que sur l'exportation, il s'appuie aussi sur la consommation des ménages. Et la question qui se pose, c'est est-ce que l'Allemagne peut compter aujourd'hui sur la demande intérieure pour relancer la croissance, Arnaud Le Chevalier?
Moi, j'ai dit brièvement tout à l'heure que la croissance était rééquilibrée en Allemagne pour des raisons à la fois budgétaires et d'augmentation des salaires. Le coût salarial unitaire, c'est-à-dire le coût du travail rapporté à la productivité, a augmenté plus rapidement en Allemagne. Alors là aussi, ça dépend des phases qu'on retient. L'Allemagne a eu une politique de modération salariale très importante de 1995 à 2006 à peu près. Depuis 2010, le coût salarial unitaire augmente plus rapidement en Allemagne qu'ailleurs, donc
notamment parce qu'il y a un manque de main d'œuvre qualifiée, donc les conditions de négociation des salaires sont plus favorables aux salariés.
Pour différentes raisons, en effet, qui ont trait aussi au bas niveau du chômage. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que le modèle allemand, c'est certes des spécialisations industrielles, mais c'est aussi la faculté à produire des qualifications de la main d'œuvre qui sont adaptées. C'est un système d'assurance sociale et de protection sociale qui reste, qui demeure développé. Bon, il y a eu des réformes des retraites très importantes, mais qui demeure relativement développé pour protéger ces qualifications spécifiques. C'est des partenaires sociaux forts. C'est un financement de l'économie, je le disais tout à l'heure, qui s'appuie beaucoup sur le réseau des banques et des caisses d'épargne régionales. C'est donc un ensemble de complémentarités institutionnelles qui ont été progressivement remises en cause, donc, par le contexte de la réunification, par la création de l'euro, et puis donc ça produit des tensions sur le modèle, justement les différentes composantes de ce modèle allemand. Il se trouve que ce que l'Allemagne a surtout exporté du point de vue de son modèle, c'est les politiques d'austérité budgétaire. Mais c'est en oubliant que l'Allemagne, elle, a autre chose. Elle a un système de négociation collective puissant, elle a un système fédéral redistributif, et un système de protection sociale qui demeure développé. Donc autant de dimensions qui n'ont, elles, été complètement oubliées dans la gestion de la crise de la zone euro.
Et pourtant, ce qu'on constate, c'est que la consommation des ménages en Allemagne augmente finalement autant qu'en France, alors que l'Allemagne a beaucoup moins de chômage que la France, justement. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Guillaume Duval ?
Non, ça c'est pas une contradiction, mais donc ce qu'il faut bien comprendre en Allemagne, c'est la longévité d'Angela Merkel au plan politique s'explique notamment par le fait qu'elle a pris tout un tas de mesures sociales pour réparer les bêtises que son prédécesseur social-démocrate avait fait, qui avait beaucoup accru les tensions sociales, la pauvreté, les inégalités, etc., en Allemagne. Donc, elle a introduit un SMIC en 2015, qui fait que les salaires, mais c'est pas les salaires des gens les plus qualifiés qui augmentent, hein, c'est les salaires des gens les moins qualifiés, qui sont pas couverts par des conventions collectives, etc., ont beaucoup augmenté, les salaires des femmes en particulier. Elle a pris des mesures très importantes pour, par exemple, la garde des jeunes enfants. Donc il y a aujourd'hui plus de crèches par nombre de bébés qui naissent, plus de places en crèche en Allemagne qu'en France, ce qui n'était pas du tout le cas précédemment, hein. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que Angela Merkel, c'est quelqu'un qui a grandi en Allemagne de l'Est, donc dans un contexte social et sociologique très différent de l'Allemagne de l'Ouest, où en particulier les femmes travaillaient, etc. Donc elle a beaucoup modernisé le système social allemand en le rapprochant en fait du modèle social français. Hein. Donc ils ont adopté plein d'éléments du modèle social français. Et c'est pour ça qu'ils ont aujourd'hui, un peu effectivement le même type de situation que nous, c'est-à-dire que la consommation intérieure tient parce qu'ils ont renoncé à ce qu'ils avaient fait au début des années 2000 et qui avait des effets déflationnistes majeurs et qui risquaient de couler la demande intérieure. Donc la demande intérieure tient. Le problème pour l'économie allemande et pour l'industrie allemande, c'est que ça ne suffit pas à la soutenir, cette demande intérieure. Il faut de la demande extérieure. Et c'est pour ça que la question décisive pour l'économie et l'industrie allemande, c'est la relance de la demande intérieure dans toute l'Europe. C'est qu'ils arrêtent leur connerie d'imposer aux autres pays européens des politiques déflationnistes qui coulent la demande intérieure dans le reste de l'Europe.
On peut se demander effectivement, Charles-Henri Colombier, quels seraient les effets d'une politique de relance en Allemagne sur le reste de l'Europe ?
Alors d'abord, il y a quand même une toute petite contradiction dans le sens où les salaires aujourd'hui en Allemagne, ils sont en hausse de 3,5%. C'est plus qu'en France et en tant que conjoncturiste, on est un petit peu déçu quand même par la dynamique de la consommation des ménages dont on se dirait qu'elle pourrait être un peu plus forte.
Absolument.
Une partie de la réponse, c'est l'épargne. C'est l'épargne parce que les Allemands sont plus dépendants de leur épargne que les Français pour leur retraite. Or, les taux d'intérêt sont aujourd'hui quasi nuls et les Allemands ont une épargne qui est très concentrée sur les produits obligataires et donc sont encore plus exposés. Donc il y a une forme de paradoxe que, à mesure que la politique monétaire européenne devient plus accommodante, les Allemands sont obligés d'épargner davantage pour préserver leur retraite. Et ça explique aussi ce petit hiatus.
Et alors, l'autre faiblesse de l'Allemagne, on l'a dit, c'est son manque de main-d'œuvre qualifiée. D'abord, sur cet essoufflement démographique qui est particulièrement important, outre-Rhin, Arnaud Le Chevalier.
Alors, ça dépend ce qu'on appelle vieillissement démographique. Là, il y a des abus de langage. Alors, moi, je parlerais plutôt de modification des structures démographiques. Quelle est la différence? C'est quand on dit vieillissement démographique.
Alors moi, je parlais d'essoufflement démographique.
On compare la part, par exemple, des 60 ans ou des plus de 65 ans en 1950, en 2000 ou en 2050. Et puis, on constate qu'elle augmente. Si on s'intéresse aux structures démographiques, on regarde, par exemple, le fait que, comme les gens vivent de plus en plus vieux, on peut pas raisonner en permanence avec un âge inchangé dans le temps pour apprécier ce vieillissement. Mais toujours est-il qu'il y a une modification très, très forte des structures démographiques en Allemagne qui, évidemment, a toute une série d'enjeux. Toutefois, contrairement à ce qui se dit parfois, si la population en âge de travailler a commencé à baisser en Allemagne depuis plusieurs années, en raison de l'amélioration de la situation d'emploi, il y a eu une flexion à la hausse des taux d'activité et des taux d'emploi, notamment et pour l'essentiel des femmes, qui a jusqu'à présent compensé cette baisse de la population potentielle en âge de travailler et qui a donc conduit à la fois à une stabilisation de la population active et à une augmentation extrêmement sensible. Plus de 12 points pour les femmes allemandes, alors avec un taux d'emploi au sens du Bureau international du travail qui est évidemment toujours soumis à juste titre à débat.
Guillaume Duval, sur ce manque de main-d'œuvre et ce vieillissement de la population.
Oui. Juste un mot peut-être sur l'épargne et sur les retraites avant. C'est vrai que c'est un gros sujet, particulièrement en Allemagne, et c'est un gros sujet de débat en Allemagne aussi. La politique monétaire de la BCE est très critiquée en Allemagne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est très difficile à comprendre apparemment par nos voisins, c'est que oui, cette politique monétaire, elle n'est pas forcément optimale pour plein d'aspects. Il faudrait sans doute la changer, avoir des taux d'intérêt un peu plus élevés, et ce serait bien pour les épargnants allemands et ce serait bien pour pas mal d'autres choses, mais la condition pour réussir à avoir ça, c'est que eux acceptent de changer leur politique économique, c'est-à-dire qu'ils aient une politique budgétaire nettement moins restrictive et qu'ils demandent à tous les autres Européens qu'ils cessent de demander aux autres Européens d'avoir des politiques budgétaires restrictives eux-mêmes et des politiques de marché du travail déflationnistes, de baisse du coût du travail, etc. C'est à cause de ça que la BCE est obligée d'avoir cette politique qui est négative pour les Allemands et pour leur épargne en particulier. Mais ça, c'est une chose qu'ils ont apparemment beaucoup de mal à comprendre. Sur la question démographique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le discours là que vous avez, qu'on répercute souvent, c'est un discours du passé. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est un pays qui a regagné de la population toutes ces dernières années, où la proportion des moins de 20 ans est équivalente maintenant à ce qu'elle est en France, moins de 25 ans, pardon, notamment parce que beaucoup de jeunes sont venus travailler en Allemagne dans la foulée de la crise, des jeunes portugais, enfin il y avait déjà beaucoup de jeunes polonais qui venaient, etc., mais des jeunes portugais, grecs, espagnols, italiens, etc., qui sont venus travailler en Allemagne.
Oui, mais ça ne règle pas la question de la main-d'œuvre qualifiée, par exemple.
Ça règle en partie la question de la main-d'œuvre qualifiée, parce que c'est les jeunes qualifiés qui viennent dans ces pays-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est en train de régler le problème démographique allemand, mais c'est un transfert budgétaire majeur des pays du Sud en crise vers l'Allemagne. Un jeune de 20 ans, c'est un jeune qui a coûté au moins 10 000 euros par an, c'est un jeune qui coûte au moins 200 000 euros. Et quand il y a 1 million de jeunes grecs, polonais, enfin portugais, italiens, espagnols, etc., qui vont en Allemagne, ça veut dire que l'Allemagne doit à ces pays 200 milliards d'euros. C'est comme ça qu'il faudrait que les Allemands acceptent de le voir, parce que ça résout le problème démographique allemand, mais ça aggrave la situation en Italie, en Grèce, au Portugal, etc., parce que s'il n'y a plus de jeunes, il n'y aura plus jamais de rattrapage, ils sortiront plus jamais de la mouise. On est en train de fabriquer un grand mezzogiorno à l'échelle continentale.
Ce qu'on voit en tout cas, c'est que l'Allemagne veut accélérer cette arrivée de travailleurs qualifiés. Il y a notamment une loi sur l'immigration qualifiée qui a été adoptée en décembre, Charles-Henri Colombier, sur cette volonté d'attirer encore davantage de jeunes qualifiés en Allemagne.
Je crois que c'est une impérieuse nécessité pour l'Allemagne. Jusqu'à présent, effectivement, l'Allemagne a réussi à combler son problème démographique, parce qu'il y a quand même un problème démographique. Il y a aujourd'hui plus de décès que de naissances en Allemagne.
Bah, c'est le cas depuis 1972.
Oui. Et elle l'a comblé par une immigration très importante. Maintenant, quand on regarde les projections d'Eurostat, qui sont des scénarios, ce qu'on appelle un scénario d'immigration moyen, il y a quand même une forme d'hiver démographique qui se profile, puisque aujourd'hui, l'Allemagne arrive à peu près à maintenir sa population en âge de travailler, donc les 15-64 ans. Selon les projections d'Eurostat, c'est pas les miennes, hein, dans 5 ans, la population en âge de travailler baissera d'à peu près 0,5% par an. Tandis qu'en France, elle sera...
Non, mais elle a déjà commencé à baisser.
Oui, elle commence à baisser, tout à fait. Et donc on est potentiellement à un point d'inflexion et vers des dynamiques démographiques qui vont devenir moins favorables pour l'Allemagne, à moins qu'elle recourt à une immigration massive, mais qui évidemment pose des problèmes politiques par ailleurs.
On connaît le poids de l'industrie dans le PIB allemand. Est-ce qu'on peut imaginer, Arnaud Le Chevalier, une nouvelle orientation de l'économie allemande? Les services prennent une place de plus en plus importante. Il y a d'autres secteurs également industriels, mais qui sont des secteurs qui étaient peut-être moins importants avant, comme la construction, qui prennent une nouvelle importance aujourd'hui en Allemagne.
Moi, je suis un peu, disons, sceptique sur l'idée que... Enfin, il y avait déjà, à la fin des années 60, il y avait déjà un discours sur le fait que l'Allemagne était spécialisée essentiellement en transport, en chimie et en machine-outil, et que de ce fait-là, elle courait à la catastrophe à l'époque, dans les décennies à venir. Je pense que les choses sont d'abord que d'avoir une industrie forte est une dotation factorielle extrêmement avantageuse pour une économie développée encore aujourd'hui. Évidemment, pas n'importe quelle industrie.
On entend beaucoup que ce sont des industries du passé.
Voilà. Mais il y a aussi une manière de les reconvertir, de les adapter, etc. Et il y a quand même des indices aussi qui peuvent rendre optimiste de ce point de vue-là. Par exemple, la part de la recherche-développement dans le secteur privé en Allemagne, dans l'économie privée, est deux fois supérieure à ce qu'elle est en France. La robotisation est considérablement plus développée.
Et en même temps, l'Allemagne reconnaît un retard très important sur l'intelligence artificielle, par exemple.
Oui, alors justement, ça tombe bien que vous évoquiez le sujet, parce qu'ils ont mis en place, le gouvernement a mis en place une initiative pour l'intelligence artificielle, pour regrouper des centres de recherche, développer des financements, aider les PME à s'en doter. Donc il y a là aussi une volonté politique peut produire des effets. Enfin, je suis pas sûr que les Allemands vont regarder impuissants la Chine, comme elle l'a fait pour l'industrie solaire, ruiner leur industrie solaire et rester impuissante pour leur industrie automobile.
En attendant, c'est ce qui se dit beaucoup, c'est qu'ils se sont reposés sur leur laurier.
Une capacité aussi d'adaptation.
Charles-Henri Colombier.
Non, effectivement, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui en Allemagne que la menace désormais est vraiment très importante. Des mesures vont être étudiées de près. On parle de nouveaux crédits d'impôt qui seraient potentiellement lancés dans le courant de l'année.
Mais là encore, il n'y a pas tellement de consensus politique sur cette question.
Alors, effectivement, reste la question du consensus politique à bâtir. Mais je pense qu'à mesure que la menace va grandir et pour l'instant, la conjoncture ne semble pas prête de rebondir. Hein, c'est même plutôt l'inverse que nous disent les enquêtes, hein, puisque les anticipations d'activité à 6 mois n'arrêtent pas de se dégrader. Si la conjoncture se dégrade davantage, je pense que ça ira plutôt dans le sens de favoriser évidemment un consensus pour une réaction politique.
On arrive presque au terme de cette discussion. Un dernier mot, peut-être, Guillaume Duval, sur la façon de sortir de cette mauvaise passe.
Mais justement, je voulais revenir sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le gros problème, c'est comment les Allemands vont réagir à tout ça. S'ils en tirent la conclusion que, comme ils ont de plus en plus de problèmes d'exportation, etc., il faut se serrer la ceinture, faire plus d'austérité budgétaire, abaisser le coût du travail et aggraver l'austérité dans toute l'Europe, ils risquent de nous envoyer encore plus dans le mur. Est-ce qu'ils sont capables d'en tirer la conclusion qu'il faut au contraire desserrer la ceinture en Europe pour donner des nouveaux débouchés à l'industrie allemande? Je sais pas, mais ça va être une grosse question dans les mois qui viennent.
Eh bien, c'est une question qu'on suivra de très près. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés aujourd'hui, Arnaud Le Chevalier, Guillaume Duval et Charles-Henri Colombier. Guillaume Duval, je renvoie les auditeurs à votre dernier livre, Trump, Poutine, Orban, Salvini, le Brexit, une chance pour l'Europe, paru le mois dernier aux éditions Les Petits Matins. Un grand merci à tous les trois. Il est presque 14h45 sur France Culture et c'est l'heure de prendre le chemin de la bibliothèque idéale de l'écho. Comme chaque vendredi, on vous propose un essai qui a marqué l'histoire de la pensée économique. Aujourd'hui, nous entrons dans les pages de l'introduction à l'économie politique de Rosa Luxembourg. Bonjour, Michael Louis.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, philosophe et auteur de Rosa Luxembourg, l'étincelle incendiaire, paru cette année aux éditions Le Temps des Cerises. Alors, on connaît Rosa Luxembourg en tant que militante révolutionnaire, on la connaît moins comme théoricienne de l'économie, et pourtant, elle est souvent considérée comme la première femme économiste de l'histoire, Michael Lowy.
Je pense qu'au 19e siècle, il y avait Henriette Martineau, enfin, il y avait d'autres femmes économistes, mais peut-être la première économiste marxiste importante, c'était Rosa Luxembourg.
Est-ce que vous pourriez nous retracer son parcours en quelques mots de la Pologne où elle naît en 1871 à l'Allemagne en passant par la Suisse ?
Oui, donc elle est née dans une famille juive en Pologne. Très tôt, elle s'est engagée dans le mouvement révolutionnaire, socialiste. Elle est partie en Suisse pour faire un doctorat sur le développement économique de la Pologne.
Elle part à Zurich, qui est alors un grand centre marxiste, révolutionnaire.
Pas du point de vue des Suisses, mais du point de vue des exilés, notamment russes ou polonais, qui se trouvent là-bas, effectivement, oui. Elle a vraiment envie de partir en Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est le centre du mouvement ouvrier à cette époque, fin du 19e siècle, le lieu de le centre de la pensée marxiste aussi. Donc, elle part en Allemagne. Bon, elle fait un mariage blanc, elle obtient la citoyenneté allemande.
Elle se dit même que l'Allemagne est le seul lieu où une révolution pourrait aboutir.
C'est le pays où le mouvement ouvrier est le mieux organisé, où le marxisme a une influence très importante. Bon, elle a envie d'être là, en Allemagne.
Elle part effectivement en Allemagne en 1898 et elle va adhérer assez rapidement au Parti social-démocrate allemand.
Voilà, elle adhère au Parti social-démocrate allemand, qui était le grand parti marxiste en Allemagne à cette époque. Et tout de suite, elle va se situer dans l'aile gauche du parti. Et elle va devenir rapidement très connue dans le parti et même dans tout le mouvement socialiste européen par une polémique contre le représentant de l'aile droite, disons, du parti, qui était Edward Bernstein, qui proposait une révision du marxisme et une voie plus réformiste, disons, pour aller vite. Donc elle polémique contre Bernstein dans un livre qui la rendra célèbre. Il s'appelle « Réforme ou révolution ». Où elle explique que les marxistes ne sont pas contre les réformes. Simplement, ils pensent que pour changer la société, il faudra un mouvement révolutionnaire.
Et puis, il va y avoir cette première trahison, ou ce qu'elle va vivre comme une première trahison, c'est ce vote en 1914 de la quasi-majorité des députés du SPD en faveur de la guerre.
C'est ça. Ça va être un choc, un traumatisme pour elle, pour toute la gauche internationaliste en Allemagne, en Europe, que le dirigeant du parti social-démocrate, pas seulement en Allemagne, mais dans presque toute l'Europe, vont se rallier à la guerre. Comme elle dit, ils ont remplacé « prolétaires de tous les pays, unissez-vous » par « prolétaires de tous les pays, égorgez-vous les uns aux autres ». Donc elle voit ça comme une trahison. Et elle organise avec d'autres, Karl Liebknecht, etc., la résistance internationaliste à cette capitulation.
Ce qu'il faut dire, c'est que pendant toute cette période, depuis son arrivée en Allemagne, elle va être arrêtée à plusieurs reprises. Et pendant la Première Guerre mondiale, notamment, elle va passer quasiment la totalité de la guerre en prison.
C'est ça. Elle va passer plusieurs années en prison à cause de son activité antimilitariste et anti-guerre. Et c'est en prison où elle va écrire un certain nombre de textes importants. Il y a aussi ses lettres de prison qui sont très émouvantes, qui montrent tout le caractère profondément humain et en même temps très combatif et intransigeant du personnage.
Et c'est pendant qu'elle est en prison qu'elle va apprendre la révolution d'octobre 1917 en Russie. Alors, est-ce que cette révolution est une révolution bourgeoise et non prolétarienne, comme elle le prédisait une dizaine d'années plus tôt, selon elle ?
La révolution commence en février comme une révolution démocratique contre les tsars, mais au cours de quelques mois, elle va se radicaliser et aboutit en octobre 17 à une révolution socialiste, disons, et la prise du pouvoir par l'aile gauche du mouvement ouvrier russe. Elle se solidarise avec cette révolution, mais elle suit avec inquiétude certaines évolutions du nouveau pouvoir révolutionnaire en Russie. Et elle écrit en prison une brochure qui sera publiée seulement après sa mort, où elle tente de faire un bilan de cette révolution russe, où à la fois elle se solidarise avec les révolutionnaires russes en disant « Lénine et Trotsky, vous avez sauvé l'honneur du socialisme international », mais en même temps, elle prend une distance critique sur la question de la démocratie. Vraiment, elle était prophétique parce qu'elle a dit, bon, vous limitez les libertés démocratiques, vous dissolvez l'Assemblée constituante, vous interdisez les autres partis. C'est une voie dangereuse qui va conduire au pouvoir de la bureaucratie.
Avant d'en venir à son œuvre, Michael Louis, un dernier mot sur sa biographie. Elle a été assassinée, on le sait, alors c'était il y a 100 ans, le 15 janvier 1919, au moment d'une révolution oubliée, la révolution spartakiste, du nom de ce mouvement qu'elle avait elle-même créé.
Elle avait créé la Ligue Spartacus. C'était les mouvements de la gauche internationaliste en Allemagne vers 1915. Mais début de 1919, la Ligue Spartakis va s'unifier avec d'autres petits groupes pour former les partis communistes allemands. Tout de suite après, il y aura une insurrection ouvrière à Berlin.
Oui, le parti est créé 15 jours avant sa mort, le 1er janvier 1919.
Voilà, c'est ça. Il y aura un vrai soulèvement ouvrier. Elle trouve qu'il est prématuré, mais elle se solidarise quand même avec le mouvement. Et le gouvernement social-démocrate de droite, disons, pour aller vite, réprime ces soulèvements et mobilise pour cela des groupes paramilitaires qui s'appellent les corps francs, des groupes d'extrême droite, et il va les jeter contre la gauche, et ces corps francs vont assassiner Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht et d'autres dirigeants du mouvement.
Et son image a été largement entachée, Michael Louis, pendant longtemps, autant par les conservateurs et les nazis que par les orthodoxes staliniens.
Effectivement, pour la droite et les fascistes, elle était l'ennemi numéro un. Bon, pour les staliniens, elle était une déviationniste, une spontanéiste, une adversaire du léninisme. Bon, mais c'est pas la même chose. Elle n'était pas vue comme un ennemi, mais simplement comme quelqu'un qui n'était pas dans la ligne juste.
Et alors pourquoi et dans quel contexte entreprend-elle la rédaction de son introduction à l'économie politique qui nous intéresse aujourd'hui?
Eh bien, c'était un cours qu'elle a donné à l'école du parti. C'est-à-dire les dirigeants du Parti social-démocrate, August Bebel et Wilhelm Liebknecht, la trouvaient un peu trop gauchiste, mais en même temps, ils la respectaient beaucoup. Et ils voulaient qu'elle contribue à former le cadre du parti. Donc, quand ils ont créé cette école de formation, ils ont demandé, entre autres, pas seulement, mais à Rosa Luxembourg, de donner des cours à cette école. Et elle a donné des cours d'introduction à l'économie politique. Et les notes pour ces cours, elle préparait la publication de ses notes comme une introduction, mais après, elle n'a pas pu le compléter. Et voilà, ça a été publié bien après sa mort, dans les années 20.
Et alors, dans ce livre, elle détaille ce qu'on appelle la société communiste primitive. Oui. De quoi est-ce qu'il s'agit, Michael Louis?
Alors, c'est très curieux parce que, bon, les livres marxistes classiques sur l'introduction à l'économie politique commencent, comme Marx, avec la marchandise, le capital, etc. Et elle a eu envie de commencer avec les sociétés pré-modernes, pré-capitalistes, primitives, ce qu'elle appelle le communisme primitif, qui existait dans tous les pays. Une forme de société où il y avait une très grande égalité, où les femmes n'étaient pas opprimées, et où la production n'avait pas pour objectif de produire des marchandises, etc., mais de produire des biens d'usage. Donc il y avait une autre logique économique. Il n'y avait pas de propriété privée. Bon, donc ça l'intéresse beaucoup, à la fois pour montrer que la propriété privée n'est pas éternelle, et pour montrer, voilà, il faudrait nous inspirer d'une forme de production qui a pour objet de produire des biens d'usage et pas des marchandises.
Et quels exemples de ces sociétés communistes primitives
Alors, elle donne un exemple que Marx et Engels avaient déjà mentionné, la marche allemande, qui était une communauté paysanne germanique ancienne. Mais elle montre comment ça existait partout dans le monde, en Inde, en Amérique latine, au Pérou. Elle parle du communisme inca, c'est une expression intéressante. Elle essaie de montrer que c'est un phénomène qui existait dans tous les continents et qui existait encore au 19e siècle, au début du 20e, dans les pays de la périphérie, en Inde, en Afrique du Nord, un peu en Amérique latine, et que le colonialisme et l'impérialisme étaient une guerre à mort du capitalisme pour en finir avec ce qui restait de ce communisme primitif pour établir la société capitaliste, marchande, etc.
Et justement, sa théorie de l'impérialisme, elle va la développer dans un autre ouvrage, l'accumulation du capital. Voilà. Elle s'interrompt finalement dans l'écriture de l'introduction à l'économie politique pour écrire ce nouvel ouvrage.
Oui, mais bon, il y a une certaine continuité. Ces thèmes du combat du colonialisme, de l'impérialisme européen contre la communauté primitive, contre le mode de vie des peuples de la périphérie, c'est un thème commun entre les deux ouvrages.
Dans l'accumulation du capital, elle cherche à expliquer comment le capitalisme survit alors que Marx estimait que les contradictions internes du système entraîneraient son effondrement.
Elle partageait la conviction de Marx que le capitalisme était voué à l'effondrement à cause de ses contradictions internes. À mon avis, c'est la partie la plus discutable de son œuvre. Bon, je pense que là, elle s'est trompée, comme Marx aussi ou d'autres. Bon. Mais jusqu'à 1914, c'était une conviction partagée par presque tous les marxistes. Justement, la crise de 1914 va la faire changer d'avis. Et c'est là où elle écrit un texte célèbre qui s'appelle la brochure Junius, où elle écrit « Socialisme ou barbarie ». La fin du capitalisme et l'avenir socialiste ne sont pas inévitables. Hein, et il peut y avoir aussi une forme de barbarie moderne. Donc, elle va changer sur ce point-là.
Pourquoi, selon vous, faut-il lire aujourd'hui l'introduction à l'économie politique de Rosa Luxembourg, Michael Lowy?
Il parle d'une thématique qui est très actuelle, à mon avis, parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de pays, mais je m'intéresse beaucoup à l'Amérique latine, alors c'est très évident, les communautés indigènes qui gardent certains éléments de ce passé communiste primitif, disons, des habitudes de vie communautaire, de pratiques collectivistes, etc., et surtout un rapport à la nature qui est différent de celui du capitalisme moderne. Donc, il y a un conflit là. Quand les entreprises multinationales, l'agro-business veulent, disons, détruire l'environnement, ces communautés indigènes luttent pour défendre leurs terres, leurs forêts, leur eau, n'est-ce pas? Et bon, voilà, ça reprend un peu le conflit dont parle Rosa Luxembourg dans l'introduction à l'économie politique. Donc ça donne une actualité inattendue, disons.
Et comment se manifeste, selon vous, l'héritage de Rosa Luxembourg, qui est encore une figure importante pour beaucoup de gens?
C'est un héritage disputé, évidemment. Les héritiers du communisme soviétique gardent toujours leurs réserves, les sociodémocrates aussi. Mais disons, les courants les plus radicaux du mouvement ouvrier, de la gauche, du socialisme, du communisme, s'inspirent beaucoup dans les idées de Rosa Luxembourg. Il n'y a pas un luxembourgisme comme une orthodoxie, hein, quelque chose, un système fermé. Mais il y a un esprit luxembourgiste qui est un esprit révolutionnaire, libertaire, démocratique, qui est très actuel, je pense, pour la pratique et la réflexion de la gauche radicale aujourd'hui.
Merci beaucoup, Michael Lowy, de nous avoir fait redécouvrir cette icône révolutionnaire. Je renvoie les auditeurs à votre livre, Rosa Luxembourg, l'étincelle incendiaire, paru au temps des cerises. Et je rappelle également que l'ouvrage de Rosa Luxembourg, Introduction à l'économie politique, a été publié aux éditions Agon.
Setzt sich hin, den Fuß auf den Tisch, Hand unter das Kinn. Niemand ist hungrig, mein Frühstücksmenü. Niemand kommt immer zu früh.
On se quitte avec Walter für Niemand de Sophie Hunger. Un grand merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter, chers auditeurs. On se retrouve lundi pour une semaine consacrée à la monnaie. D'ici là, vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.